Et c'est le journal de Pierre Pilet. Bonjour Pierre.
Bonjour à tous. Course contre la montre en Haïti, 304 morts, des centaines de blessés et de disparus après un tremblement de terre hier. Nous sommes sur place dans un instant. Direction aussi la Polynésie française. Certaines îles reconfinées le dimanche à partir d'aujourd'hui en raison de la propagation du Covid-19. Des cabinets fermés, des médecins qui renoncent à leur congé. Une des conséquences de la crise sanitaire, la pénurie de remplaçants cet été. Il vous fait visiter Paris sur terre et sur scène. On part à la découverte du bus amphibie. Et à 8h20, votre invitée Laetitia.
Une artiste d'art contemporain les plus exposées au monde dans le grand entretien. La française Annette Messager, 78 ans. Une de ses installations est actuellement visible au centre Pompidou-Metz. Annette Messager, c'est plus de 50 ans de photos, de dessins, d'installations. C'est un regard aiguisé sur le monde de l'art et des femmes dans l'art. C'est une voie libre, sans concession. Elle nous a accueillis dans son atelier près de Paris. Rendez-vous à 8h20.
France Inter. 304 morts, bilan provisoire des autorités en Haïti après le tremblement de terre d'hier. 7,2 sur l'échelle de Richter, la partie sud-ouest de l'île touchée. Et ce témoignage d'une habitante, Christella Saint-Hilaire.
Quand ça s'est passé, j'étais dans ma maison. Quand ça a vraiment commencé à trembler, j'étais près d'une grande fenêtre. J'ai vu qu'elle allait se briser, alors je me suis déplacée dans l'encadrement d'une porte. Un morceau de mur s'est en partie effondré sur mon dos, mais je ne suis pas grièvement blessée, juste un peu au bras. Mais mon cœur continue vraiment de battre très fort. Oui, tout le monde est dans la rue. Plusieurs maisons se sont totalement effondrées avec des personnes à l'intérieur. Ceux qui ont été dégagés des décombres ont été amenés à l'hôpital, mais même l'hôpital est détruit. Oh, voilà que ça revient. Il y a encore des secousses.
1800 blessés, des centaines de disparus. On est à 160 km au sud-ouest de la capitale, Port-au-Prince. Logistique d'ampleur, le temps presse pour sauver des vies. Les précisions de notre correspondante Amélie Baron.
C'est une course contre la montre qui se poursuit dans la péninsule sud-ouest d'Haïti pour sortir des centaines de personnes portées disparues et donc potentiellement coincées sous des dalles de béton. Et le temps presse aussi dans les hôpitaux des zones affectées par le séisme, déjà complètement saturées par l'afflux massif de blessés. L'urgence est médicale et logistique, mais le grand défi est de faire arriver l'aide tant nécessaire. Sur un peu plus de 2 km en périphérie de la capitale, l'unique route qui va de Port-au-Prince à la moitié sud du pays est une zone toujours aussi périlleuse, sous le contrôle total des gangs depuis le mois de juin. En conférence de presse, le Premier ministre Ariel Henry a assuré que la police et les forces armées étaient mobilisées pour assurer la sécurité sur cet axe. L'autre difficulté de taille est, elle, totalement naturelle. Une tempête tropicale Grace est entrée ce soir dans les Antilles et si elle conserve sa trajectoire et vitesse actuelle, de fortes pluies et vents violents pourraient s'abattre sur Haïti ce lundi. Amélie Baron à Port-au-Prince, RFI pour France Inter.
304 morts, 1800 blessés, donc bilan provisoire. Haïti frappé par un séisme de magnitude similaire en 2010 qui avait fait plus de 230 000 morts. Nouvelle victoire des talibans en Afghanistan, la prise de Jalalabad dans l'est du pays. Kaboul, la capitale désormais seule grande ville encore contrôlée par le gouvernement. Les militaires américains, eux, continuent d'évacuer les ressortissants des États-Unis. Pour la première fois depuis 27 ans, un cas de virus Ebola détecté en Côte d'Ivoire, dans la capitale économique Abidjan. Extrêmement préoccupant selon l'Organisation mondiale de la santé. Le pays qui dispose de vaccins contre la maladie va procéder à des injections. L'actualité en France, la mobilisation des opposants au pass sanitaire et à la vaccination contre le Covid en baisse hier. Un peu moins de 215 000 manifestants sur l'ensemble du territoire d'après le ministère de l'Intérieur, soit 22 000 personnes de moins par rapport au samedi précédent. Pendant ce temps, les Antilles, elles, tentent de lutter contre la quatrième vague de Covid. Hôpitaux saturés en Martinique et Guadeloupe, toutes deux reconfinées. Pareil pour certaines îles de Polynésie. Chaque dimanche, à partir d'aujourd'hui, décision nécessaire face à la situation épidémique. C'est ce que nous dit Dominique Saurin, haut-commissaire de la République sur place.
Nous avons un taux d'incidence qui est voisin de 2000 pour 100 000 habitants, donc c'est très très important, ça a considérablement augmenté. Et nous avons 210 personnes qui sont hospitalisées, principalement sur Tahiti, et 29 personnes en réanimation. Les capacités de soins sont maintenant saturés. À compter du 30 juillet, nous avons commencé à prendre des mesures très strictes. L'interdiction des rassemblements, des regroupements, l'interdiction des événements festifs, des manifestations sportives et culturelles. Tout ceci a été complété par des mesures le 5 août et le 11 août dernièrement, avec la mise en place d'un couvre-feu de 21h à 4h du matin et maintenant des mesures de confinement du samedi soir au lundi matin. Les plages sont interdites et les gens ne peuvent pas sortir à plus d'un kilomètre de chez eux. C'est pour éviter les regroupements qui sont surtout marqués le dimanche, mais je n'exclus pas d'étendre bien sûr la mesure si la situation devait se dégrader pour arriver à des confinements beaucoup plus stricts.
Propos recueillis par Delphine Evenou. 1837 lits de réanimation occupés par des patients atteints du Covid-19 en France. Légère hausse par rapport à vendredi, selon Santé publique France. Et la crise sanitaire aggrave la pénurie de médecins remplaçants cet été. Très sollicités par les centres de dépistage et de vaccination, ils se font plus rares que les années précédentes. Résultat, cabinet fermé, médecins qui renoncent à leur congé, Véronique Julia.
Médecin généraliste en Mayenne, le docteur Luc Duquesnel s'accorde cet été 3 semaines de vacances plutôt que le mois entier qu'il avait coutume de prendre chaque année. Impossible de partir plus longtemps et ses collègues ont dû faire les mêmes efforts, sinon leur maison de santé ne pouvait pas tourner cet été.
Nous, on est 8 médecins. Aucun des 8 médecins n'a trouvé un remplaçant, donc j'ai courté mes vacances d'une semaine. Mais j'ai d'autres confrères qui sont installés tout seuls dans leur cabinet et qui, eux, ne vont pas prendre de vacances cet été.
Dans cette région rurale qui attire peu, trouver des remplaçants l'été n'a jamais été simple. Mais cette année, c'est pire.
On ne s'est jamais retrouvé dans la situation où on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on finissait par en trouver, pas autant qu'on demandait, mais on finissait par en trouver. Là, c'était à chaque fois des refus. Tous ceux qu'on a contactés travaillent dans les centres de vaccination et donc ils ne sont pas disponibles, tout simplement.
Une rémunération plus alléchante, un travail plus simple et plus cadré. Les centres de vaccination attirent davantage, c'est vrai. Et le phénomène touche tous les territoires. Même les cabinets de bord de mer sont désertés. À Frontignan, près de 7, le docteur Jean-Christophe Calme est confronté aux mêmes difficultés.
On est 9 dans mon cabinet. Jusqu'à maintenant, j'avais jamais eu de problème de remplacement. Et là, on a 3 médecins qui sont partis en congé là, cette semaine et qui ne sont pas remplacés. C'est un surcroît de boulot important.
D'autant plus important que le Covid flambe dans la région Occitanie et qu'en plus du reste, le cabinet doit assurer en ce moment 10 à 20 consultations quotidiennes pour des patients positifs.
Sujet signé Véronique Julia. Plus de 46 200 000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 en France, soit près de 70% de la population. Plus de 39 millions ont un schéma vaccinal complet, données fournies par la Direction Générale de la Santé.
Il va sur route et sur l'eau. On vous présente ce matin un véhicule atypique qui circule dans Paris.
Un bus amphibie, tout premier modèle du genre en France. Son nom, les Canards de Paris. À bord, 35 touristes qui peuvent admirer les monuments de la capitale, sur la chaussée donc, mais aussi sur la Seine, Thibaut Huch.
À première vue, ce bus bleu a tout d'un bus comme les autres. L'animatrice accueille les touristes pour un petit tour dans Paris.
Alors, vous êtes sur Marcel, le canard de Paris. Et moi, je ne suis pas un canard, je suis un guide. Mais vous, vous êtes des petits canards. Vous êtes extraordinaire.
Mais à mi-parcours, le bus sort son hélice et son gouvernail. Fini le bitume, c'est le grand plouf dans la Seine. Pour mettre aux normes ce bateau roulant, Philippe Mallet, cofondateur des Canards de Paris, a travaillé pendant 7 ans. Il a même dû recruter un pilote bien particulier.
C'est pas un conducteur classique évidemment, puisqu'il a deux casquettes. Il est sur la route et sur la Seine. Sur la partie route, il a un permis bus classique qui combine deux formations. Et sur la partie Seine, il a au total un permis de capitaine et 3 autres petites formations à côté, en cas d'évacuation par exemple, ou les premiers secours.
À l'arrivée, un grand sourire sur toutes les lèvres, les passagers sont conquis.
Bah, c'est quand même assez impressionnant parce qu'on n'est pas habitué à ce qu'un véhicule de terre entre dans l'eau comme ça, et on est quand même comme sur un bateau.
Ça m'a fait bizarre d'être dans un bus et dans l'eau, mais c'était bien quand même.
Mais attention, pour naviguer, les places sont chères, il faut réserver au moins une semaine à l'avance.
Et parlons du prix, justement, 20 euros pour les enfants jusqu'à 12 ans, 35 euros pour les adolescents et les adultes.
Quand même. Il est 8h09, tout de suite, on passe au sport.
On a beaucoup parlé de Lionel Messi cette semaine, présenté hier soir aux supporters du Paris Saint-Germain, avant la victoire face à Strasbourg en Ligue 1, 4-2. Parlons d'une autre star qui va, elle, encore plus vite que Messi. Bonjour Guillaume Batin.
Bonjour.
Un monument même qui vient d'annoncer sa retraite.
Oui, des stars comme l'Argentin dans le monde du sport, il y en a plein. Des stars qui gagnent des millions comme lui, des stars qui font pleurer d'émotion leurs fans, des stars qui poussent à l'hystérie. Cet après-midi à 14h sur la grille de départ du Grand Prix d'Autriche de moto, il y aura une autre star immense de l'histoire du sport, histoire histoire parce que ce pilote vient d'annoncer sa retraite. Valentino Rossi, 42 ans, surnommé Il Doctor, le docteur, nom de code VR46, VR comme ses initiales, 46 comme son numéro en course inscrit sur la moto, le même que son père Graziano dans les années 70. Comme Messi, Rossi a un jeu vidéo qui porte son nom et une longue liste de records, longue comme le bras, 9 titres de champion du monde dans toutes les catégories, dont 7 en MotoGP, des motos surpuissantes capables de grimper à 360 km/h, 115 victoires en 424 Grands Prix, 235 podiums, 65 pole positions, des faits de course incroyables, des remontées fantastiques aussi belles qu'un but marqué du rond central en passant 5 défenseurs, un génie du guidon aussi doué que le génie du ballon et une aura planétaire. Quand il y avait des spectateurs au bord des circuits, VR46 savait qu'une tribune entière était louée par ses fans, son fan club, au Mans, à Monza ou à Jerez, en France, en Italie ou en Espagne, avec des drapeaux, des chants, des banderoles, comme au stade. On voit aussi son sourire peint sur des murs, comme celui de Zidane à Marseille, Maradona à Naples et Messi à Rosario. Valentino Rossi a un fan club, des centaines de milliers d'adhérents et un village natal, Tavuglia, où des gens venus du monde entier se rendent en pèlerinage tous les jours de l'année. Ils visitent le musée Valentino Rossi et roulent à 46 km/h, la vitesse maximale imposée par le maire. Boucle à l'oreille, boucle dans les cheveux, Valentino vient d'annoncer la fin d'une carrière immense. Il partira à l'issue du dernier Grand Prix de la saison, mais il reviendra au début de la prochaine à la tête de sa propre écurie. Le sport rend dingue, les fans accros à un club, à un joueur de foot, c'est beaucoup plus rare pour un pilote et c'est pour cela que Valentino Rossi est une exception.
Merci Guillaume Batin et le Grand Prix d'Autriche de MotoGP à partir de 14h cet après-midi.
Et merci à vous deux et merci à Pierre Pilet pour le journal Le Temps.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Et c'est Jean-Michel Golinski de Météo France.
Avec 35 à 38 degrés cet après-midi dans les terres méditerranéennes, la vigilance orange canicule est maintenue dans le quart sud-ouest de l'Aquitaine au Midi-Pyrénées. Sous un ciel couvert ce matin, les températures maximales vont perdre 6 à 9 degrés par rapport à hier, avec par exemple 26 à Bordeaux, 28 à Toulouse, contre respectivement 34 et 37 relevés hier après-midi. Près de la Manche, il fera 20 à 23 degrés avec un vent de sud-ouest sensible et un ciel assez nuageux. Sur les autres régions, statu quo avec comme hier du soleil et des températures stationnaires, mais cet après-midi des averses orageuses vont se développer de l'Auvergne-Rhône-Alpes au Grand Est.